Notion numéro 15, le temps. Nous sommes aux pages 19 et 20 du dossier NRM, notion repère méthode, et on corrige l'exercice numéro 20. Il s'agit d'un texte à trous qui permet de mettre en place l'ensemble des termes qu'on utilise couramment par rapport à cette notion de temps. Le temps, c'est une notion qui, en général, est plutôt secondaire dans les sujets ou dans les textes que vous allez avoir au baccalauréat, en fait, qui est toujours mixé avec d'autres notions. Soit c'est mixé avec la notion de conscience, qui est vraiment une notion corrélative un peu avec cette notion de temps, puisque la conscience, c'est pour l'être humain ce qui ouvre la dimension du temps. Mais on va avoir aussi très souvent une association avec par exemple, les questions de morale, la question du bonheur, par exemple. Si vous prenez la doctrine des épicuriens, le fameux carpe diem, cueille le jour, qui consiste à chercher à profiter des bonheurs simples de la vie afin d'être le moins troublé et de ne pas trop se soucier ni du passé ni de l'avenir, mais vraiment du présent et être heureux au présent. À ce moment-là, vous avez la notion de temps qui est associée à la notion de bonheur. Cette notion de temps, elle va aussi souvent être associée à la question de la connaissance, puisque le but est à la question de la science, puisque le but et l'objectif de la science, c'est de faire des prévisions et de pouvoir en effet prévoir l'avenir. C'est le cas pour la météo, par exemple, parce que c'est quelque chose d'important pour l'être humain d'être capable d'anticiper ou de connaître l'avenir pour bien guider ses actions. Le texte à trous, il est divisé en trois petits paragraphes. Le premier paragraphe va concerner ce qu'on appelle le temps objectif. On va essayer de définir le temps en dehors de notre conscience, le temps des choses, et on va le dissocier de ce que vous avez dans le deuxième paragraphe, ce qu'on appelle le temps subjectif, c'est-à-dire le temps vécu. Pour faire vraiment une distinction très simple entre ces deux temps, quand vous êtes en cours, vous avez un cours qui et la durée est mesurable, ça dure 53 minutes, c'est la même pour tous les autres cours, tous les élèves vont sortir en même temps, etc., etc. Mais quand vous êtes en cours, en fait, vous avez aussi le ressenti en termes de temps qui est le vôtre. Un cours qui vous passionne vous semblera passer vite, un cours qui vous ennuie vous semblera passer lentement. Et ça, on appelle ça le temps vécu ou le temps subjectif. Donc, on va commencer avec le texte à trous sur le temps objectif. Je passe sur l'étymologie qui est peu importante, hein, le tempus, qui est le mot latin, ne nous donne pas d'indication ou ne nous donne pas grand-chose à penser sur la notion. Donc, c'est parti pour le temps objectif. Dimension de l'univers caractérisée à la fois par la continuité et la succession, ce qui est paradoxal, voire le fameux paradoxe d'Achille et de la tortue. Alors, pour ce paradoxe d'Achille et de la tortue, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller chercher, taper Google ou aller sur YouTube. Vous aurez des petites vidéos explicatives tout à fait intéressantes. Moi, je vais pas ici y passer du temps, ce serait fastidieux et pas forcément très intéressant. En général, ça n'est pas très utile pour une dissertation en philosophie, en terminale, sur la question du temps. Mais il y a un paradoxe, en effet, dans le temps, puisque le temps, c'est à la fois une succession d'instants, un instant T, un instant T prime, un instant T prime prime, etc., etc. On recule comme ça, d'instant en instant, et puis vous avez toute la dimension des instants qui sont passés, donc il y a une succession, et en même temps, cette succession, ça produit le temps, ça produit une continuité qu'on appelle le temps. Donc, il y a quelque chose de paradoxal, de dialectique, qui rend du coup ce temps difficile à définir. C'est à la fois quelque chose qui se divise en instants, mais cette division n'est pas quelque chose de très très satisfaisant puisque nous vivons le temps comme quelque chose de continu aussi. Bien, je continue avec la deuxième phrase. Le temps est par essence lié au mouvement et au changement. Ce qui ne change pas n'a ni début ni fin et se situe donc en dehors du temps. Pour bien comprendre ça, imaginez un petit peu un monde où rien ne changerait du début à la fin. Prenez l'instant présent, même si vous voyez déjà que c'est difficile il est déjà passé, l'instant présent dont je parle, mais prenez une image, prenez une photo, et imaginez que le monde, c'est ça, c'est cette image, et rien ne bouge du début à la fin. Eh ben, en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de temps. C'est pour ça que le temps, il est associé au changement. Il n'y a de temps que parce qu'il y a des choses qui changent. Et ces choses qui changent, comme elles sont dans le temps, elles ont une durée, on va dire qu'elles ont une temporalité. Donc nous, les êtres humains, nous sommes des êtres naturels, nous changeons, nous avons une temporalité, et c'est le cas de tout ce qui change. Par opposition, ce qui ne change pas n'a pas de temps. Et ce qui n'a pas de temps, on le verra un petit peu plus tard, c'est ce qui est éternel. Donc du coup, c'est ce que je vous dis dans la phrase suivante. Or, toutes les choses de la nature sont soumises au mouvement. Elles naissent et périssent, elles font leur temps. Ça, c'est une expression un petit peu classique. Donc, elles font leur temps plus ou moins long. Je vous renvoie ici à la notion de nature. En fait, le propre des êtres naturels, c'est justement de changer. La nature, c'est ce qui change, c'est du mouvement permanent. Tous les êtres de la nature sont en mouvement, sont en changement perpétuel. Ils naissent, ils périssent, ils se détruisent complètement. Il y en a qui apparaissent à partir de ce qui a été détruit. Donc, la nature, c'est ce qui a du temps, c'est ce qui est dans le temps, et les êtres naturels, donc, ils ont un temps qui est leur temps déterminé. Ensuite, dans le deuxième petit paragraphe de cette partie, je vous parle du temps, ce qu'on appelle le temps objectif. Tout à l'heure, je vous parlais du temps d'un cours à Canet, c'est 53 minutes, donc c'est typiquement le temps objectif du cours. Donc, lisons la phrase. Le temps objectif est mesurable. On le qualifie d'ailleurs souvent aussi de temps des physiciens ou de temps des horloges. Donc, je pense que vous voyez tous de quoi il s'agit quand on parle de temps objectif. La question est comment est-ce que justement, donc c'est ce qu'on peut mesurer, mais justement, ben, comment est-ce qu'on mesure le temps de quelque chose? C'est ce dont on parle dans la suite. Donc, il va s'agir en fait pour déterminer le temps d'un cours, on va comparer en fait la durée de ce cours à un autre type de mouvement qui revient toujours en permanence, qui est régulier. On va le comparer à une heure ou à une minute. Donc ici, la minute, ça va être l'unité de mesure d'un cours à Canet. S'il durait une heure, en fait, ce cours à Canet, eh bien, ce serait la mesure heure qu'on prendrait en compte. S'il durait une journée, eh bien, ce serait l'unité jour qu'on prendrait en compte. Et le jour, on le sait, c'est un mouvement régulier, ça correspond au mouvement de la Terre autour d'elle-même. Donc c'est parti pour le troisième petit paragraphe de cette première partie. Le temps d'une chose ou d'un événement, autrement dit sa durée ou sa période, est en effet la mesure de son mouvement qui se situe dans l'intervalle entre son début et sa fin. Donc je reprends l'exemple d'un cours à Canet. Le temps d'un cours à Canet, c'est-à-dire sa durée, c'est l'intervalle entre son début et sa fin que je vais comparer au mouvement de l'horloge et donc que je vais définir comme 53 minutes. Mais le temps d'un être naturel, par exemple le temps de votre vie ou de notre vie à chacun de nous, eh bien ça va être l'intervalle entre la naissance et la mort qu'on va comparer au nombre de fois où la Terre aura tourné autour du Soleil. On calcule notre propre durée en années. Je continue à compléter le texte à trous. Donc, la mesure de ce mouvement s'effectue grâce à la comparaison avec un mouvement observable, régulier, répétitif et aisément divisible. C'est pourquoi le mouvement cyclique des astres, qui correspond bien à ces critères, a universellement été utilisé par les humains comme étalon du temps. Exemple, le jour est la mesure du mouvement de rotation de la Terre autour d'elle-même, l'année est la mesure de la rotation de la Terre autour du Soleil, l'heure est 1/24e de jour, etc., etc. Pour calculer ma durée, mon âge, je compare la durée qui sépare ma naissance et mon existence actuelle avec le nombre de rotations de la Terre autour du Soleil qui ont eu lieu durant la même période. Donc, je vais maintenant récapituler l'ensemble des mots qui ont été placés dans les différents trous de ce paragraphe sur le temps objectif. Premier mot, continuité. Deuxième mot, succession. Troisième mot, changement. Quatrième mot, temps. Cinquième mot, mesurable. Sixième mot, durée. Septième mot, mesure. Huitième mot, régulier. Neuvième mot, je crois que je ne me trompe pas, divisible. Dixième mot, cyclique. Onzième mot, étalon. Douzième mot, jour. Treizième mot, année, et 14e mot, âge. Bien, donc pour résumer sur ce temps objectif, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est le temps qu'on mesure de l'extérieur en comparant la durée d'une chose avec un élément de comparaison qui est un mouvement régulier que je peux observer, diviser facilement et surtout, retenez bien en tête cette opposition entre le cours qui est mesuré, le temps du cours qui est mesuré objectivement, 53 minutes pour un cours à Canet, et le temps tel que vous le vivez, parce que c'est ça qui est globalement à retenir, cette distinction entre le temps objectif des choses et puis le temps que vous vivez, et ça c'est l'objet de notre deuxième partie de texte à trous. Donc, c'est parti pour le petit 2, le temps subjectif. Temps subjectif. On parle aussi de temps vécu par un être conscient. Je m'arrête là. Voilà, vous voyez le lien direct avec la conscience. Il faut, pour avoir un temps vécu, pour qu'il y ait du temps subjectif, il faut qu'il y ait une subjectivité, il faut qu'il y ait une conscience qui se rapporte à la fois au monde extérieur et puis aussi à lui-même, à son monde intérieur. Et ça, c'est vraiment le propre de la conscience. Donc, si vous considérez que la conscience, c'est le propre de l'être humain, eh bien, il n'y a finalement que pour l'être humain qu'il y a quelque chose comme un temps vécu, un temps subjectif. Donc, je reprends avec ma deuxième phrase de texte à trous. C'est cette fois la dimension intérieure de notre conscience, dans laquelle se succèdent nos perceptions, nos émotions, tous nos états de conscience. C'est le temps qui passe, plus ou moins vite, selon qu'on s'ennuie ou que nous sommes passionnés par une activité. Notre conscience est un trait d'union entre différents moments du temps. Alors, je m'arrête là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si on observe notre conscience, c'est pas simplement la conscience, c'est pas simplement la perception du présent. Si c'était simplement la perception du présent, vous ne pourriez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vous ne pourriez pas être déconcentré aussi par rapport à ce que je suis en train de dire, puisque peut-être que votre esprit divague, pense à quelque chose d'autre et est happé par ce qu'il va faire dans 1 heure, etc., etc. Peut-être que vous vous projetez déjà dans votre épreuve du bac, que votre imagination fonctionne en même temps que vous m'écoutez, etc., etc. Donc, la conscience, ça n'est pas que l'attention à un instant présent, c'est aussi se souvenir en même temps de ce que j'ai déjà vécu. Pour comprendre une phrase, par exemple, eh ben, il faut que je me souvienne d'une certaine manière de ce qui a été dit avant, etc., etc. Donc la conscience, elle est pluridimensionnelle et elle fait le lien comme ça entre différents moments du temps. Voilà, donc c'est ce qu'on précise au début de la page 20. Elle, donc elle, c'est la conscience, elle se projette dans le présent, mais aussi dans le futur et dans le passé, et elle crée un continuum entre ces différents moments du temps. Donc, je vais récapituler l'ensemble des mots à replacer. Il n'y en avait pas beaucoup dans ce deuxième petit paragraphe, donc du temps subjectif. Premier mot, c'était conscience. Deuxième mot, c'était projette. Et troisième mot, c'était continuum. Enfin, troisième partie de ces éléments de définition, conceptualisation, qui dit temps, dit dimension du temps et différence passé, présent, futur, éternité. Et donc, c'est l'objet de cette troisième partie. En fait, c'est aussi parce que en général, quand vous allez avoir des sujets de dissertation sur le temps, vous pouvez les regarder en dessous, hein, en dessous de l'exercice 20, vous avez six exemples de sujets. Quand vous allez avoir des sujets de dissertation sur le temps, donc, en général, ça va porter sur le passé, le présent ou l'avenir. Il y a eu quelques années, sommes-nous responsables de notre avenir? On travaille en cours, suis-je ce que mon passé a fait de moi? Là, vous avez dans les questions qui lui sont données, peut-on prévoir l'avenir? Donc, rapport avec la science. Faut-il se soucier du passé? Voilà, donc en fait, en général, le temps va être introduit par la question de la façon dont on se rapporte à l'une de ces dimensions, passé, présent ou futur. Ou alors, ça va aussi être intéressant dans la question religieuse, par exemple, sur la religion, la question de l'éternité ou de ce qui est hors du temps par rapport aux questions métaphysiques. C'est parti pour le texte à trous. Le passé, c'est ce qui a été réel. Le présent, c'est ce qui est actuellement réel. Le futur, c'est ce qui sera réel. Donc, vous remarquez que par rapport à ces trois définitions, des trois définitions du temps, en fait, à chaque fois, je suis obligée de faire un rapport avec la réalité. Passé, ce qui a été réel, présent, ce qui est actuellement réel, et futur, ce qui sera réel. Donc, il y a la réalité, et puis cette réalité, elle a différentes dimensions, mais qui finalement se rapportent toujours par rapport à un présent et qui changent. C'est-à-dire que ce qui sera réel à un moment donné, prenons l'instant présent, la fin de cette correction audio arrivera dans le futur, on peut l'anticiper, et on l'anticipe par rapport au moment présent. Le début de cette correction audio est passé. Mais finalement, ben, quand vous irez manger tout à l'heure après avoir écouté l'ensemble de la correction audio, ce qui est futur à l'instant, eh bien, sera passé quand vous serez en train de manger. Du coup, passé, présent ou futur, c'est relatif à la conscience qui est en train de définir ce qui est présent, ce qui est passé et ce qui est futur. On en revient au temps subjectif. Le deuxième problème par rapport à cette distinction passé, présent, futur, c'est que, bah, du coup, ce qui est passé, ce qui est futur, je le définis par rapport à la réalité, mais c'est pas réel. Et ce qui est présent actuellement, en fait, du coup, c'est plus réel quelques instants après. Donc, le temps, ça n'existe ou ça n'existe pas vraiment dans la réalité. Correction du passage suivant, donc. Le problème, c'est que selon de telles définitions, non seulement ni les événements passés, ni les événements futurs n'existent réellement, mais le présent, qui est une limite entre ces deux rien, est lui aussi impossible à fixer, car il passe sans cesse d'une dimension à l'autre. Donc en gros, c'est difficile de parler du passé, du présent et du futur, parce que c'est pas réel, c'est pas réel dans le sens où c'est pas fixe, c'est pas stable. Je peux pas attribuer cet adjectif passé, présent ou futur de manière sûre et certaine à aucun élément du monde. Enfin, par rapport donc à cette tridimensionnalité du temps, nous avons en face donc ce qui justement échappe à ces trois dimensions, ce qui ne change pas, ce qui ne bouge pas, et donc ce qui est de toute éternité. C'est parti donc pour le deuxième petit paragraphe de cette troisième partie. L'éternité constitue l'exact opposé du triptyque temporel précédent. Ce qui est éternel est, c'est-à-dire est stable, sans début, sans fin et sans variation, donc hors du temps. Le problème, c'est qu'il semble que nous ne faisons l'expérience de rien qui aurait ce caractère de stabilité. Donc, je vais reprendre l'ensemble, avant de reparler un petit peu de l'éternité, je vais reprendre l'ensemble des mots qui constituent les mots à replacer dans l'ensemble de cette troisième partie. Donc le premier mot, c'était réel, le deuxième, c'était actuellement, le troisième, l'éternité, le quatrième, stable, et le cinquième, c'était variation. Donc, l'éternité, je mets en évidence le paradoxe de l'éternité, c'est que l'éternité, c'est quelque chose qui n'est pas réel non plus, parce que c'est quelque chose dont on ne fait strictement pas l'expérience. Prenez n'importe quelle chose qui vous entoure, et vous-même, il n'y a rien qui soit hors du temps, qui ne change pas, etc. Et pourtant, eh bien, on a cette idée d'éternité. Et souvent, cette éternité et l'adjectif éternel, on va l'utiliser pour ce qu'on imagine ne pas être soumis au temps. Donc on va l'utiliser en religion et en métaphysique pour parler, par exemple, de Dieu. Dieu, dans la plupart des religions, il est éternel. Les dieux sont au moins immortels, même quand ils ont commencé dans le temps, mais souvent, on a des éléments qui vont être des éléments d'éternité et qui la nature, si jamais je déifie la nature, c'est justement quelque chose d'éternel qui change, mais l'ensemble a une dimension d'éternité. Donc, je vais utiliser cet adjectif pour qualifier des êtres que je n'expérimente pas, mais dont j'imagine l'existence qui peut être utile pour expliquer justement le monde qui change dans le cas de Dieu. Et ensuite, on va utiliser en philosophie l'éternité pour qualifier par exemple les idées. C'est ce qu'on va retrouver chez Platon. Ce qui, pour Platon, a le plus de réalité, ce sont les idées des choses. L'idée, c'est ce qui ne change pas. La table sur laquelle vous êtes en train de travailler, par exemple, eh bien, c'est une table qui a été construite à un moment donné et qui sera détruite à un autre moment, qui change, qui va subir des altérations, etc. Donc, les tables réelles, elles changent. Elles ne sont pas éternelles. Par contre, l'idée de table, eh bien, c'est la même idée depuis que les tables existent. Et il pourrait même y avoir cette idée de table, donc de meuble avec un plateau monté sur des pieds, sans qu'existe aucune table réelle. Donc c'est pour ça que Platon considère que les idées sont éternelles et que c'est ce qui... La véritable connaissance, c'est de connaître ces idées qui ne changent pas et qui ne bougent pas. On va s'arrêter là-dessus. La notion de temps, c'est pas forcément une notion facile, encore une fois, c'est surtout une notion qui est intéressante dans le cadre d'une réflexion philosophique en association avec toutes les questions liées à l'existence, en gros. Donc dans la perspective existence humaine, ou aussi dans les questions qui sont liées à la connaissance. Voilà. Donc ça. Ayez bien en tête cette distinction entre le temps objectif et le temps subjectif, le temps vécu, l'importance de la conscience dans la définition de ce que c'est que le temps, éventuellement les petits paradoxes ou problèmes métaphysiques liés au temps, mais il y a très peu de chances que vous soyez interrogé ou qu'il y ait un sujet de dissertation en terminale vraiment sur ces questions un petit peu pointues et métaphysiques.